les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Comment diffusait-on les nouvelles en 1950, en métropole et en outre-mer ? Par la presse écrite, par la presse radiophonique. Ah, la criée des nouvelles d'un village à l'autre à Madagascar. Le langage tambouriné en Afrique noire. Les journaux multilingues au Vietnam et l'information à Tahiti. Connaissez-vous le journal Les Guêpes ? L'almanach de l'Union française se penchait sur la diffusion des nouvelles. C'était le 25 avril 1950 sur Onde Courte.
La radiodiffusion française présente l'almanach de l'Union française. Aujourd'hui, la diffusion des nouvelles.
Ben vous arrivez bien tous les trois.
Pourquoi ? Que se passe-t-il donc au journal ?
Tenez Jean-François, lisez cette dépêche d'agence.
Merci. Lyon, l'avion régulier Paris-Péninsule qui devait atterrir à 13h30 a disparu. Le dernier message capté est daté de ce matin 11h. Plusieurs personnalités seraient à bord.
Mais qu'allez-vous faire ?
La compagnie vient de me communiquer la liste des passagers. Voyons, tiens Richard, file aux travaux publics et arrache-leur tous les renseignements possibles.
Bon. Ou peut-être tomber l'avion.
Ah, attendez. J'ai alerté téléphoniquement nos correspondants de Lyon et de Grenoble. J'ai en outre dépêché un envoyé spécial dès que nous avons appris la disparition.
Curieuse existence que celle du journaliste relié à l'actualité la plus dramatique par le fil d'un téléphone et la bande du télétype.
Allô. Ah, Grenoble. Quoi ? Ils sont repérés. Il y a des morts ? Vous n'en savez rien encore, débrouillez-vous.
Vous voilà sur la piste, mais enfin qu'allez-vous faire ?
Eh bien, nous allons ouvrir le journal sur l'accident.
Oui.
C'est-à-dire débuter et titrer sur la catastrophe.
Bon.
Avec, si possible, une photo transmise par Bellinogramme.
Bon.
Un texte d'au moins 150 lignes à la une, avec une tourne pour la dernière.
Où veux-tu que ça rentre ? Dans la marche ?
Ah, comme ça pourra. Débrouille-toi.
Éternelle dispute entre le rédacteur qui donne la copie et celui qui la met en page. Mais on enlève quelques lignes par-ci, quelques autres par-là, et le journal se fait.
L'affaire est importante, il faut voir ce que les confrères du soir ont donné là-dessus.
Ah, la confraternité, cette haine vigilante.
Allô, quoi, Grenoble ? Alors, les a-t-on retrouvés ? Mais c'est une question d'heure. Ah, bon, on fera une édition spéciale, voilà tout.
Plus l'heure s'avance, moins le tirage de l'édition spéciale, sauf exception, sera forte. Car il faut compter avec la concurrence des quotidiens du matin. L'un des plus gros chiffres jamais atteints en France l'a été par un journal du soir qui, à l'occasion de la mort du roi Alexandre et de M. Louis Barthou, a tiré à plus de 5 millions d'exemplaires. De minute en minute, sur la table du chef d'information, s'accumulent les bandes de papier arrachées au téléscripteur. Les informations venues de correspondants du journal que sans arrêt les sténographes tapent sur leur machine. Cela se traduit par...
Non, 30 lignes, même pas, de place. Ça, mon vieux, une nouvelle brève. Bon, fais voir ça, un filet, et ça... Ah non, au panier. Une légende de photo.
Alors cet avion ?
Minute. Allô ? Bon ? Vivant ? Une jambe cassée, ben c'est pas cher. Le pilote a été magnifique. Très bien, mon vieux, je vous passe les sténos, allez-y. Allez, hop, nous sommes bons pour la spéciale. Jean, tu titreras, retrouvé, en douche, Chicago. Allez les enfants, tout le monde au marre.
Dans une vaste salle toute bruissante du cliquetis des machines à clavier, les linotypistes composent ligne à ligne le journal. Dans un coin très éclairé, une robuste table, le marbre, sur laquelle le titrier pose les grosses capitales du titre. La page va être bouclée. Sur Sur la première épreuve générale se penchent le rédacteur en chef et le secrétaire de rédaction. Un dernier coup d'œil du correcteur.
Enlevez la une !
Le flanc est bientôt pressé, puis la forme coulée. Alors les puissantes rotatives se mettent en branle, débitant et pliant le journal.
Rentrine même pas, pas de place. Ça, mon vieux, une nouvelle brève. Bon, fais voir ça, un filet. Et ça, ah non, au panier. Une légende de photo.
Alors cet avion !
Minute, minute. Allô ? Bon, vivant ! Une jambe cassée, ben c'est pas cher. Le pilote a été magnifique. Très bien, mon vieux, je vous passe les sténos, allez-y. Allez, hop, nous sommes bons pour la spéciale. Jean, tu titreras, retrouvé, en douche, Chicago. Allez les enfants, tout le monde au marbre.
Dans une vaste salle toute bruissante du cliquetis des machines à clavier, les linotypistes composent ligne à ligne le journal. Dans un coin très éclairé, une robuste table, le marbre, sur laquelle le titrier pose les grosses capitales du titre. La page va être bouclée. Sur la première épreuve générale se penchent le rédacteur en chef et le secrétaire de rédaction. Un dernier coup d'œil du correcteur.
Enlevez la une !
Le flanc est bientôt pressé, puis la forme coulée. Alors les puissantes rotatives se mettent en branle, débitant et pliant le journal au rythme de plusieurs dizaines de milles à l'heure. Voitures et motos emportent la dernière édition aux quatre coins de Paris et de la province. Déjà retentissent dans les rues les cris des vendeurs.
Grande partie édition d'un vendeur François.
C'est fini. Tandis que les passants happent les feuilles encore humides, journalistes et typographes là-haut se réunissent autour d'une bouteille. Car on fête aujourd'hui Saint-Jean Porte-Latine. Patron des journalistes.
Pourquoi ?
Sans doute parce que l'apocalypse demeure le plus grand, le plus pathétique des reportages.
Allah, Allah, Allah !
À la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. Ce n'est pas de l'eau de rivière, encore moins de celle des pluies. Allah, 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 à la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui.
Des ouvriers typographes comme Valère et Claude Genoux ont beaucoup contribué au perfectionnement de l'imprimerie. La presse de Gutenberg n'imprimait recto verso que 300 feuilles par jour et il a fallu attendre le début du XVIIIe siècle pour avoir des machines tirant 1000 feuilles à l'heure. C'est le Times qui, le premier en 1814, employa des machines rapides. Voici en quels termes enthousiastes il annonce la nouvelle à ses lecteurs.
Un système de machines que l'on serait tenté de croire animé d'une vie propre vient d'être inventé et exécuté. Il surpasse de beaucoup nos capacités humaines quant à la rapidité et à l'exactitude du travail.
Le premier des robots.
Mais quels furent les premiers journaux ?
Au XVIe siècle, des feuilles tirées à quelques dizaines d'exemplaires et vendues sur les marchés. On y trouvait des nouvelles d'un peu partout. Les seules sources d'informations dont on disposait étaient les lettres où l'on puisait des renseignements.
Savez-vous, Colette, quels étaient les sujets qui faisaient prime ?
Non.
Non. Eh bien, c'était les rivalités de Charles Quint et de François Ier. L'alliance avec les Turcs, la révolte des Pays-Bas.
Et déjà, comme aujourd'hui, les faits divers. Veaux à trois têtes, orages, comètes, sans compter la rubrique des sorciers. Mais les premiers journaux dignes de ce nom n'apparaissent qu'au début du XVIIe siècle, avec l'organisation de la poste, et comme les courriers n'avaient lieu qu'une fois par semaine, les publications étaient hebdomadaires.
Les journaux naissent dans plusieurs villes libres d'Europe, à Anvers notamment, mais ils doivent se soumettre à une censure. Ils donnent sans commentaire des nouvelles de l'extérieur, surtout politiques et militaires. Chose curieuse, on leur interdit les nouvelles de l'intérieur.
Et c'est sous Richelieu, comme par hasard, que naît en France la presse d'État. Son fondateur est Théophraste Renaudot, médecin protestant. C'est le vrai père du journalisme moderne. Il fonde en 1631 la Gazette, bientôt appelée Gazette de France, journal des rois et des puissants de ce monde, comme Renaudot se plaisait à le dire. Puis sont créés successivement le Journal des savants et le Mercure galant, ce dernier littéraire et mondain.
Pendant la Révolution française, avec Brissot, Mirabeau, Rivarol, Marat, Camille Desmoulins, la presse politique prend une extension considérable. Les pamphlets excitent l'opinion. Cependant, les journaux coûtent cher. En 1830, l'abonnement annuel est encore de 80 francs or. Aussi, le constitutionnel n'a-t-il que 20 000 abonnés.
Le développement des moyens de communication, notamment le chemin de fer, des inventions telles que le téléphone, le télégraphe, la photographie, ont considérablement favorisé l'essor de la presse d'information. L'instruction qui s'est répandue dans le peuple au cours du 19e siècle a étendu la clientèle des journaux. Hommes, femmes et enfants ont bientôt eu leur propre publication.
Un sociologue contemporain a remarqué que c'est devenu une nécessité pour les hommes de ce temps de posséder, d'étreindre en pensée l'univers. Au XXe siècle, le cinéma, la radio puis la télévision ont apporté à cette soif d'information, marque de notre civilisation, de nouveaux aliments.
Ici Paris, Radiodiffusion française. Allô les Antilles, allô la Guyane, allô Saint-Pierre et Miquelon, Paris vous parle. L'émission que vous allez entendre est diffusée chaque jour de 12h à 12h30 GMT sur 16m81, 17 850 kilocycles. Au cours de cette émission, vous entendrez le journal de Paris.
Moyens de communication, notamment le chemin de fer, des inventions telles que le téléphone, le télégraphe, la photographie, ont considérablement favorisé l'essor de la presse d'information. L'instruction qui s'est répandue dans le peuple au cours du 19e siècle a étendu la clientèle des journaux. Hommes, femmes et enfants ont bientôt eu leur propre publication.
Un sociologue contemporain a remarqué que c'est devenu une nécessité pour les hommes de ce temps de posséder, d'étreindre en pensée l'univers. Au XXe siècle, le cinéma, la radio puis la télévision ont apporté à cette soif d'information, marque de notre civilisation, de nouveaux aliments.
Ici Paris, Radiodiffusion française. Allô les Antilles, allô la Guyane, allô Saint-Pierre et Miquelon, Paris vous parle. L'émission que vous allez entendre est diffusée chaque jour de 12h à 12h30 GMT sur 16m81, 17 850 kilocycles. Au cours de cette émission, vous entendrez le journal de Paris avec les informations, la revue de la presse du matin.
Aujourd'hui, c'est à qui publiera le document le plus sensationnel sur l'événement le plus récent survenu aux Antipodes. Des chasseurs d'images et de nouvelles parcourant tous sens notre monde tourmenté. Les territoires d'outre-mer les plus lointains ne sont pas restés en dehors de la course. Les agences de presse y ont leurs correspondants, des journaux s'y sont fondés, des postes émetteurs et récepteurs de radio y ont été installés. Dès 1938, par exemple, l'annuaire des établissements de l'Inde signalait que pour le seul territoire de Pondichéry, 39 publications différentes y étaient rédigées, en français, en anglais, en bengali et en tamoul.
Andrian, voudriez-vous nous dire comment se transmettaient les nouvelles à Madagascar avant l'introduction de l'imprimerie dans votre île?
Il n'existait à Madagascar aucun système organisé de diffusion des informations. Chaque agglomération se tenait au courant de l'actualité par ses propres moyens. Et pourtant, aucun événement de quelque importance ne passait inaperçu, même dans les villages les plus perdus.
Les explorateurs s'en rendirent bien compte. Mais par quels moyens se répandaient les nouvelles?
Il y avait les voyageurs et aussi les commerçants qui circulaient d'un marché à l'autre. Les porteurs ou bourjanes qui transportaient les voyageurs aisés ou les marchandises. Ces petites gens étaient d'excellents observateurs. La grande foire aux nouvelles, c'est le marché hebdomadaire où se rencontrent des commerçants ou des marchands venus parfois de très loin. Autant que de denrées, on s'y approvisionne en nouvelles.
Mais pour les nouvelles urgentes, comment faisait-on?
Dans les cas graves, on avait recours au téléphone sans fil, autrement dit, à la criée. D'un village à l'autre, on est à portée de voix, grâce à cette magnifique caisse de résonance que constitue la vallée intermédiaire. Du bord du fossé qui entoure le village, on peut fort bien, en criant, les mains formant porte-voix, se faire entendre du village d'en face.
Rabéo ! Rabéo ! Zaunyul na patungan valan. Asaw mid na nembanen reka na daol isret. Itun raar na susbikyan roka niyaz. Angyane!
Cela manque un peu de discrétion.
Oh, dans ces villages où la vie privée est très restreinte, aucun fait n'est censé devoir rester secret.
N'y avait-il pas également des messagers royaux?
Les Tsimandou, chargés de transmettre les communications officielles. Ils partaient dans les différentes directions de la Rose des Vents. À leur passage dans chaque localité, le chef du village convoquait les habitants par battement de tambour ou au son de la conque marine. L'assemblée réunie, l'envoyé lui donnait connaissance du message, puis on le restaurait et si c'était la nuit, on l'hébergeait. Le tout gratuitement, d'où son titre de Tsimandou, celui qui ne paie pas. Après quoi, il reprenait sa course.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, des imprimeries se sont installées, le journalisme a fait son apparition. Remarquez que l'information n'y tient qu'une place restreinte.
Rabeo! Ila zaunyul na patungan balan. Asaw mid na nembanen reka na daol isret. Itun raar na susbikyan roka niyaz. Angyane!
Cela manque un peu de discrétion.
Oh, dans ces villages où la vie privée est très restreinte, aucun fait n'est censé devoir rester secret.
N'y avait-il pas également des messagers royaux?
Les Tsimandou, chargés de transmettre les communications officielles. Ils partaient dans les différentes directions de la Rose des Vents. À leur passage dans chaque localité, le chef du village convoquait les habitants par battement de tambour ou au son de la conque marine. L'assemblée réunie, l'envoyé lui donnait connaissance du message, puis on le restaurait et si c'était la nuit, on l'hébergeait. Le tout gratuitement, d'où son titre de Tsimandou, celui qui ne paie pas. Après quoi, il reprenait sa course.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, des imprimeries se sont installées, le journalisme a fait son apparition. Remarquez que l'information n'y tient qu'une place restreinte. Peut-être faute de matière, mais surtout parce que le public n'y attache qu'un faible intérêt. De là, le peu de succès des quotidiens. Les Malgaches ont une préférence marquée pour les idées générales, les développements philosophiques. Aussi, la presse malgache actuelle se compose-t-elle d'hebdomadaires en majorité. Là-bas, ce que l'on veut trouver dans son journal, ce sont les appréciations, les commentaires sur les principales nouvelles de la semaine. Quant aux personnes désireuses d'informations rapides et complètes, ce sont en général des gens d'affaires qui ont les moyens d'avoir la radio.
Et la presse de langue française?
Eh bien, elle subit la contagion. Elle comprend presque exclusivement des hebdomadaires. Et les chroniques politiques, les commentaires et les développements divers y occupent une place prépondérante.
Cela n'est-il pas dû au fait que Madagascar étant une île...
Est à l'écart des scènes centrales, où se jouent les actes les plus principaux de l'actualité mondiale. Les échos de l'agitation universelle n'y parviennent qu'atténués par le temps. Les événements ont perdu leur caractère virulent en abordant sur ces rives paisibles et lointaines.
Tout à l'heure, en vous écoutant évoquer les moyens employés à Madagascar, mon cher Andrian, je songeais qu'aujourd'hui encore en Afrique noire, on utilise pour la diffusion des nouvelles un procédé rudimentaire et cependant très efficace, le langage tambouriné. J'ai pensé que cela vous intéresserait d'en avoir un exemple. Écoutez donc ce journal parler. Il s'agit de l'annonce de la mort d'un chef au Cameroun.
À Nîmes, quels sont les moyens d'information utilisés actuellement par les Vietnamiens?
La France a apporté au Vietnam, comme au Cambodge et au Laos, les journaux, les hebdomadaires d'information, les agences de presse, la radio et le cinéma d'actualité. Petit à petit, les Vietnamiens ont adapté ces nouveaux moyens d'information à leur standing, à leurs coutumes, à leur langue et à leur état d'esprit.
Existe-t-il des journaux bilingues, par exemple en français et en vietnamien?
Certainement, et aussi en chinois et vietnamien, car il y a beaucoup de chinois au Vietnam et qu'un grand nombre de vieux lettrés vietnamiens savent encore lire le chinois.
Comment se présentent ces journaux?
Ils utilisent beaucoup, pour les numéros spéciaux surtout, de couleurs, le vert et le rouge, et un grand choix de dessins lithographiés.
Y trouve-t-on comme en France des feuilletons?
Bien sûr. Qu'ils soient indépendants, de gauche, de droite ou purement nationalistes, les journaux vietnamiens ne manquent pas de la tradition de la nouvelle ou du roman feuilleton. Roman policier, d'aventure ou d'amour, avec des titres comme « Du sang sur la robe du bonze » ou encore « L'amour en pays lointain ».
Vos titres sont prometteurs.
Il y a aussi des rubriques littéraires, philosophiques.
Il s'agit de l'annonce de la mort d'un chef au Cameroun.
Demandez à Nîmes quels sont les moyens d'information utilisés actuellement par les Vietnamiens.
La France a apporté au Vietnam, comme au Cambodge et au Laos, les journaux, les hebdomadaires d'information, les agences de presse, la radio et le cinéma d'actualité. Petit à petit, les Vietnamiens ont adapté ces nouveaux moyens d'information à leur standing, à leurs coutumes, à leur langue et à leur état d'esprit.
Existe-t-il des journaux bilingues, par exemple en français et en vietnamien?
Certainement, et aussi en chinois et vietnamien. Car il y a beaucoup de Chinois au Vietnam et qu'un grand nombre de vieux lettrés vietnamiens savent encore lire le chinois.
Comment se présentent ces journaux?
Ils utilisent beaucoup, pour les numéros spéciaux surtout, de couleurs, le vert et le rouge, et un grand choix de dessins lithographiés.
Y trouve-t-on comme en France des feuilletons?
Bien sûr, qu'ils soient indépendants, de gauche, de droite ou purement nationalistes, les journaux vietnamiens ne manquent pas à la tradition de la nouvelle ou du roman feuilleton. Roman policier, d'aventure ou d'amour, avec des titres comme « Du sang sur la robe du bonze » ou encore « L'amour en pays lointain ».
Vos titres sont prometteurs.
Il y a aussi des rubriques littéraires, philosophiques, mais rarement théâtrales ou cinématographiques. Les critiques en ces matières n'existent pour ainsi dire pas au Vietnam.
Y trouve-t-on des réclames?
Oui, et surtout pour des produits pharmaceutiques, car les Vietnamiens ont souvent peur d'être malades.
Peut-on se procurer des journaux à la campagne?
La distribution s'y fait souvent à bicyclette. Le livreur devant parcourir plusieurs dizaines de kilomètres chaque matin et parfois durant la nuit.
Pourriez-vous nous citer quelques titres de journaux du matin et du soir?
Oh, il n'y a presque pas de journaux du soir. Quant aux titres, voici par exemple « Dien Tin », ce qui veut dire « la dépêche »,« Anshan », »,« lumière »,« Fokun », »,« rénovation » ou « Ngoi Moi », »,« l'homme nouveau ».
L'almanach de l'Union française. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur ondes courtes le 25 avril 1950. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».
Je veux le... Maheriana, Maheriana, Maheriana.